Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Certes, cette ville fut qualifiée de « pistolet braqué sur Londres, cœur de l'Angleterre ». Mais cela, c'était il y a bien longtemps. Après avoir été le prétexte à de multiples querelles internationales durant des siècles, Anvers est devenu un lieu indispensable pour l'équilibre de l'Europe. C'est ce que Paul Vagret, dans Heures de culture française, disait le 2 décembre 1957 sur la chaîne nationale. Anvers, un don de l'Escaut.
Anvers se dit en flamand Antwerpen. L'étymologie de ce nom viendrait, selon la tradition, du geste d'un géant légendaire établi au passage de l'Escaut et qui jetait dans le fleuve, après l'avoir tranché, la main des voyageurs qui refusaient de lui payer tribut. En flamand, Antwerpen signifie « main jetée ». Aujourd'hui encore, les armes d'Anvers portent une main coupée. Quoi qu'il en soit, à l'estuaire de l'Escaut fut fondée une petite paroisse aux alentours du 7e siècle. Isolée au cœur des marécages, l'établissement végéta pendant des siècles, après avoir subi d'ailleurs les ravages des Normands. L'arrivée au 13e siècle de marchands italiens, wallons et allemands donna une première impulsion au commerce maritime. Anvers, remarquablement installé sur l'Escaut, remonté par la marée, ne tarda pas à supplanter Bruges, dont le rôle déclinait avec l'envasement progressif de son port. Au 15e siècle, c'était chose faite, et Anvers fondait sa prospérité rayonnante sur la léthargie de Bruges la morte. Choisi par les Anglais comme entrepôt de leurs marchandises sur le continent, entrepôt de draps en particulier, Anvers étendit bientôt son activité au commerce des épices. Ces précieux produits des Indes arrivaient directement sur ses quais par des navires portugais et espagnols, au lieu de suivre l'ancienne route Venise-Bruges. Enfin, le trafic continental par la Meuse, le Rhin, les chemins terrestres et le commerce avec les pays du Nord achevait d'enrichir le port et la cité. Anvers adhère à la Ligue hanséatique en 1545. C'est alors, vers le milieu du XVIe siècle, la brillante apogée anversoise. Protégée par Charles Quint, qui aimait à y faire de fréquents séjours, la ville atteignait une population de 100 000 âmes. De nombreux monuments, l'essor de l'imprimerie, les innombrables marchandises qui s'entassaient dans les guildes du port explique l'enthousiasme de Guichardin. Le célèbre voyageur florentin n'hésite pas à écrire « Paris excepté, à peine trouverez-vous cité qui surpasse Anvers en puissance et en richesse ». Les luttes religieuses et politiques de la fin du XVIe siècle causèrent un désastre dont Anvers mit plusieurs siècles à réparer les effets. Le sac d'Anvers par la furie espagnole en 1576, puis le siège d'Alexandre Farnèse en 1584-85, ravagèrent complètement la ville. Les éléments mêmes de la prospérité furent d'ailleurs brutalement coupés par la fermeture de l'Escaut en aval du port. L'estuaire du fleuve devint en effet hollandais à la suite de l'indépendance des Provinces-Unies et toute remontée de navires fut soumise à des difficultés sans nombre. Au XVIIe siècle, Amsterdam détrône Anvers, qui ne comptait plus en 1609, d'après Pirenne, que deux marchands de Gênes, un de Lucques, plus aucun de Florence, et quelques Anglais et Portugais. Cet effacement, qui contraste avec la flambée artistique symbolisée par Rubens et son école, devait durer jusqu'à la Révolution française. Celle-ci et l'Empire, qui lui succéda, déclarèrent l'Escaut fleuve international. Napoléon, qui avait vu l'intérêt stratégique d'Anvers, pistolet braqué sur Londres, cœur de l'Angleterre, s'intéressa activement à la renaissance du port qu'il visita en personne et qu'il fit rénover. Un bassin porte encore le nom de bassin Bonaparte. La liberté de navigation sur l'Escaut ne fut cependant totale qu'après 1863, date à laquelle la Hollande dut supprimer l'octroi qu'elle avait établi à Flessingue. Anvers connut dès lors un renouveau éclatant qui devait mener son port à l'un des premiers rangs dans le monde, et en dépit des dégâts subis en 1914 et surtout en 1944, quand une pluie de V1 et de V2 s'abattit sur la ville, Anvers est aujourd'hui en pleine activité. Anvers, dit un vieux proverbe, doit l'Escaut à Dieu et tout le reste à l'Escaut. Le fait qu'Anvers soit un don du fleuve est difficilement contestable. L'animation du port, le troisième d'Europe après Rotterdam et Londres, suffit à l'illustrer. « Toute la mer va vers la ville », disait le poète Verhaeren. À 88 km de la mer, Anvers est moins favorisé que Rotterdam, 34 km, mais davantage que Hambourg, 120 km, ou que Brême. La marée s'enfle en remontant la rivière, ce qui détermine des amplitudes de 4 mètres environ. Le fleuve joue ainsi le rôle de chasse, ce qui évite l'envasement et entretient de fortes profondeurs. Les relations avec le continent sont assurées par un certain nombre de voies d'eau. Le Rhin d'abord, grâce au canal de Beveland, et peut-être demain grâce à un canal direct en direction de Hollandsdiep. La Meuse et la région liégeoise, ensuite par le canal Albert, terminé en 1939. L'Escaut lui-même, que des péniches remontent en direction de Gand et du nord de la France. Plusieurs canaux enfin, dont l'un relie Anvers à Bruxelles et à Charleroi. Les relations ferroviaires sont excellentes dans toutes les directions, Hollande, Allemagne ou France. Des autoroutes enfin sont en service ou en construction, joignant Anvers à Bruxelles, Gand et Liège. Un grand tunnel sous l'Escaut permet les relations directes avec la Flandre, sans gêner, comme eût fait un pont, le trafic sur le fleuve. Le port, proprement dit, comprend deux sortes d'installations, les unes en rivière, qui s'échelonnent sur 5 km vers Hoboken, en amont d'Anvers, et où la marée fait sentir ses effets. Les autres, au contraire, au nord de la ville, constituées par un ensemble de bassins séparés de l'Escaut par des écluses. La plus grandiose de ces écluses porte le nom du roi Baudouin, qu'il inaugura en 1955. Elle atteint une longueur de 360 mètres, ce qui en fait la seconde du monde. La profondeur des bassins est au minimum de 10 à 11 mètres. L'équipement portuaire est un des plus complets et des mieux agencés du monde. Le gros avantage du port d'Anvers sur ses concurrents européens est que tous les navires sont assurés d'y trouver du fret. Grâce au rôle de ses capitaux, à l'activité de sa bourse des valeurs, Anvers possède une fonction de transit extrêmement importante, encore qu'en diminution depuis l'avant-guerre. Les marchandises y sont entreposées avant leur réexpédition. Certes, il s'agit de transit en direction ou en provenance de la Belgique, puisqu'Anvers assure les 4/5 du trafic maritime belge. Mais il s'agit aussi de transit international, essentiellement avec l'Allemagne et la France, mais également avec la Suisse. Le montant du trafic total des marchandises s'élève actuellement à quelque 32 millions de tonnes, soit près du double de Marseille, premier port français. Les entrées sont à peine supérieures aux sorties, ce qui confère au port une remarquable stabilité. On mesure les progrès accomplis quand on pense qu'en 1860, le rang d'Anvers en Europe n'était que le 10e. Napoléon avait raison quand il déclarait aux Anversois « Vous deviendrez ville de commerce de premier rang. Vous rivaliserez avec Londres, Amsterdam, Bordeaux et Marseille. » Parmi les entrées, on note surtout les grains, les bois, la laine et le coton, les produits chimiques, les denrées coloniales, en provenance surtout du Congo belge, et le pétrole brut que raffinent trois grandes installations situées aux portes de la ville. Aux sorties figurent de la houille, des produits manufacturés, des produits métallurgiques. La Belgique n'ayant guère de flotte marchande, c'est le pavillon britannique qui se place en tête de ceux des navires qui desservent le port, suivi par les pavillons hollandais, norvégiens et allemands. Le trafic portuaire a donné naissance autour d'Anvers à une sorte de complexe industriel fort actif. On y remarque les seuls chantiers navals de Belgique, à Hoboken, ainsi que des industries alimentaires, notamment la torréfaction du café et le raffinage du sucre de canne, des industries mécaniques et chimiques, le traitement du radium grâce à l'uranium du Congo, etc. Enfin, depuis que l'art de la taille des diamants fut découvert au XVe siècle par l'anversois Van Berken, cette activité reste importante, elle n'est dépassée en Europe que par la diamanterie d'Amsterdam. Avec 650 000 âmes, l'agglomération anversoise se place en Belgique immédiatement après Bruxelles. La ville proprement dite rassemble plus de 530 000 habitants, tous réunis d'ailleurs sur la rive droite de l'Escaut. Comme le note le géographe de Mangeon, le contraste entre les deux rives est un trait remarquable du site d'Anvers, alors qu'à Bordeaux, à Londres, à Glasgow, la ville s'étend des deux côtés du fleuve. Anvers, comme toutes les villes flamandes, conserve de belles demeures à pignons à redans. Celles que l'on admire sur la Grand Place soutiennent la comparaison avec les maisons des corporations de Gand et de Bruxelles. Cet aspect traditionnel, remarquable dans les quartiers qui avoisinent l'Escaut, se complète avec la magnifique cathédrale des 15e, 16e siècles, dont la fameuse flèche haute de 123 mètres, belle comme un mât et droite comme un cri, effrayait déjà Charles Quint par sa légèreté. Contraste étonnant avec le gratte-ciel voisin, dont l'architecture manque d'originalité, mais du sommet duquel la vue est extraordinaire sur la cathédrale toute proche, la ville, le port et les lointains polders se perdant vers l'horizon brumeux. Ville d'art, enfin, Anvers conserve des témoignages importants de sa splendeur d'autrefois. Le nom de la cité est inséparable de celui du peintre de génie que fut au XVIIe siècle Pierre-Paul Rubens, lequel y mourut en 1640. La cathédrale expose sa fameuse descente de croix, tandis qu'un choix considérable de toiles est présenté par le musée des Beaux-Arts en même temps que des œuvres d'anversois célèbres telles que Jordaens, Van Dyck, Bruegel, Teniers, Snijders. Le rôle d'Anvers dans les débuts de l'imprimerie est attesté par le séjour qui fit Plantin, un des premiers maîtres imprimeurs du XVIe siècle, dont la maison a été transformée en musée. Anvers représente une part considérable de l'économie belge, et même européenne. Au centre de l'Europe occidentale, porte ouverte sur les marchés extérieurs, son port est un trait d'union essentiel. Après avoir été un prétexte de querelle internationale pendant des siècles, Anvers retrouve la fonction qui présida à sa naissance, celle de lien indispensable entre le cœur européen et le monde entier.
C'était Heure de culture française, Anvers, métropole de l'Occident, par Paul Vagret. Première diffusion sur la chaîne nationale le 2 décembre 1957. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.